Chapitre 91. Après avoir pleuré pendant des heures, étendu près de Richard, comme s'il y avait encore une chance qu'il s'éveille pour la prendre dans ses bras et la consoler, et s'être dit que son chagrin la tuerait, puis avoir enragé parce qu'il ne la tuait pas, Callan finit par se relever. Après avoir tiré sur ses vêtements, elle sortit de la chambre. En compagnie d'hommes de la première phalange, Nietzsche et les trois morts de site montaient la garde dans le couloir, à bonne distance, pour montrer qu'elle respectait le chagrin de la mère inquisitrice. Quand celle-ci commença à descendre le couloir pour aller parler à Pfister, tout le monde la suivit. Là encore à une distance respectueuse afin de ne pas la déranger. Nietzsche elle-même resta en arrière, jugeant que son amie avait besoin d'intimité et surtout pas qu'on la bombarde de phrases réconfortantes. Rien ne pouvait adoucir une telle souffrance et tous le savaient. Bien sûr, ils avaient aussi de la peine, mais pour Callan, c'était différent. Son monde venait de s'écrouler car elle avait perdu son âme sœur. À une intersection, Erika jaillit soudain d'un couloir obscur. Toujours vêtue de son uniforme de cuir noir, elle brandissait son agiel et se trouvait plus près de Callan que tous les fidèles amis qui la suivaient. Ayant souvent vu Kara sur un champ de bataille, l'inquisitrice sut aussitôt que la mort de Sith se préparait à porter un coup mortel, une attaque éclair conçue pour arrêter le cœur de l'ennemi. Les yeux d'Erika brûlaient de haine. D'instinct, Callan leva une main. Du bout des doigts, elle toucha la poitrine d'Erika juste sous sa gorge. Dès lors, elle devint maîtresse du temps. Le contact de ses doigts, aussi léger que le souffle d'un amant sur une joue, suffisait à lui donner l'absolu contrôle de la situation. Elle aurait pu compter chaque cheveu sur le front de la mort de Sith, et même chacun de ses cils. En réponse à la haine de son adversaire, Callan n'éprouva ni colère ni hostilité, mais pas de clémence ou de tristesse non plus. Dans le regard d'Erika, il n'y avait pas de pitié, exactement comme dans le sien. En cet instant qui semblait s'étirer à l'infini, une inquisitrice n'éprouvait aucun sentiment. Elle agissait, foudroyant sa cible aussi vite qu'un carreau d'arbalète. Alors qu'Erika fondait sur elle au ralenti, Callan comprit que cette idiote n'avait pas une chance. En fait, elle était déjà morte, mais elle n'en avait pas conscience. Aveuglée par sa rage, elle ne comprenait pas que c'était elle le gibier, alors qu'elle se prenait pour le prédateur. Stupidement, elle croyait encore avoir l'avantage. Une grossière erreur. Quand le pouvoir de Callan se déchaîna, elle eut le sentiment qu'un torrent d'énergie jaillissait du plus profond d'elle-même, se déversant en elle avant d'aller frapper sa cible. Comme elle l'avait fait un nombre incalculable de fois, elle permit à cette force dévastatrice de déferler hors de son corps. Aussitôt, tout ce qu'était Erika, sa nature profonde, ses souvenirs, ce qu'elle désirait le plus ardemment, disparut à tout jamais. Dans le couloir, un roulement de tonnerre muet fit trembler les murs. Les caches en verre des lampes se brisèrent, puis une fenêtre explosa vers l'extérieur. Alors que des portes volaient en éclats, le pouvoir souleva le tapis qui couvrait le parquet et l'éventra. Partout le plâtre du plafond et des murs se lézarda. Derrière Callan, des soldats s'écroulèrent, renversés comme des quilles par l'onde de choc. Erika tomba comme une masse, se roula en boule et fut parcourue de convulsions. Alors que ses os se brisaient et que ses muscles se déchiraient, elle s'abandonna à la douleur et à la folie. Le phénomène qui se produisait inévitablement quand la magie limitée d'une mort de Sith entrait en contact avec le pouvoir d'une inquisitrice. Dès qu'ils se furent relevés, les soldats accoururent pour s'assurer qu'il n'y avait plus de danger. Mais Erika, qui agonisait au pied de Callan, avait été neutralisée avant même qu'il la voie. En réalité, il n'y avait jamais eu de menace. Lorin, Val et Cassia approchèrent et baissèrent les yeux sur Erika. Dans ce cas précis, il n'y aurait pas de prise de contrôle d'un esprit sur un autre, pas de dévotion pour une maîtresse, ni d'abject désir de la servir. Quand une mort de Sith était la cible d'une inquisitrice, les choses ne se passaient pas ainsi. Le seul résultat, c'était une longue et douloureuse agonie. « Transportez-la dans le donjon !» dit Callan au soldat. « Au moins ces cris ne dérangeront personne. Inutile de l'enfermer, elle n'ira plus nulle part. » Mais il lui faudra au moins 24 heures pour mourir. J'ai entendu des histoires, murmura Cassia en regardant quelques soldats ramasser Erika et s'éloigner, laissant une traînée de sang dans leur sillage. La réalité est pire que les rumeurs. Elle a choisi son destin le jour où elle a juré fidélité à Ludwig Dreyer, dit simplement Callan. Approchant de son ami, Nietzsche se pencha pour lui parler à l'oreille. « Callan, le poison de Jit t'a privé de ton pouvoir, alors comment as-tu fait ça ?»« La souillure de la pitié silence n'est plus en moi, Nietzsche. »« Quoi ?»« Dans le royaume des morts, Richard m'en a débarrassé. » »« Il n'y avait pas besoin d'un champ de protection, puisque ce poison, dans le séjour des morts, ne pouvait rien contaminer. »« Et le voile l'empêchera de revenir dans le monde des vivants. » Grâce à Richard, la souillure de Jit est emprisonnée à l'endroit où elle doit être. C'est merveilleux. Par les esprits du bien, c'est extraordinaire. Un esprit du bien m'a guéri, Nietzsche. Richard. Alors vous n'allez pas mourir, mère inquisitrice? S'écria Cassia. Non. Mais il ne me reste plus aucune raison de vivre. Quand j'agonisais, j'aurais tout donné pour survivre, et maintenant, j'aimerais mourir. Nietzsche enlaça Callan et la serra dans ses bras. Puis elle s'écarta et retrouva son esprit pratique. Puisque tu as de nouveau ton pouvoir, pourquoi ne pas t'en être servi sur Dreyer? Il t'aurait obéi et les choses auraient été bien plus faciles. Ce n'est pas si simple que ça. Peut-être, mais en faisant ça, tu aurais été sûr qu'il ne mentait pas. J'en étais sûr, mon ami. J'ai passé une partie de ma vie à arracher la vérité aux gens. Parfois, il n'y a pas besoin de recourir au pouvoir. Dreyer a dit la vérité. Il ne pouvait rien faire de plus pour Richard. Si tu avais pris le contrôle de son esprit, il n'aurait plus représenté la moindre menace, et nous en aurions peut-être tiré de précieuses informations. J'ai fait un pari à une très bonne cote, Nietzsche. Que veux-tu dire? Ces gens savent ranimer des cadavres, pas les ressusciter. Il ne nous aurait rien appris qu'il vaille le risque d'utiliser mon pouvoir sur lui. Quel risque? Erika ne t'a opposé aucune résistance? Oui, mais elle n'avait pas de pouvoirs occultes. Je vois. Je n'ai jamais déchaîné mon pouvoir sur un sorcier noir. Mais nous savons que la magie additive n'a guère d'effet sur ces gens-là. Nietzsche, le pouvoir d'une inquisitrice est de la magie additive, au moins en partie. Et Zed lui-même était impuissant contre un adversaire tel que Dreyer. « Donc, dit Cassia, sur l'abbé, ça aurait pu ne pas fonctionner. » C'était la possibilité la moins inquiétante. Mon pouvoir a un effet différent selon la cible que je vise. Quand un détenteur du don use de sa magie sur une mort de Sith, elle le capture en prenant le contrôle des sortilèges qu'il lance. Mais si elle essaie ça face à une inquisitrice, eh bien, tout le monde a vu ce qui est arrivé à Erika. Comment savoir ce qui se serait passé avec Dreyer? Il aurait pu retourner mon pouvoir contre moi, me tuer, puis vous abattre tous. Je n'ai pas voulu risquer de commettre une erreur fatale. De toute façon, j'étais persuadé d'avoir tiré de lui tout ce qui nous intéressait. C'est ce que j'appelle un pari à une très bonne cote. J'aurais dû me douter que tu avais réfléchi à tout ça, soupira Nietzsche. Richard m'a appris à penser à la solution, pas au problème. J'ai essayé de suivre ce précepte.